Écoutons la voix de Philippe Roth dans cette archive datant de 1999. Il s'y entretient avec Alain Finkielkraut. Il lui parle, Philippe Roth, du succès de Portnoy et son complexe et de ce que la célébrité a changé pour lui.
J'ai été tout d'un coup propulsé, enfin, disons, ma chair humaine s'est trouvée propulsée dans la machine à célébrité pour en faire un hamburger de célébrité. Avec Portnoy. Là, ma vie a complètement été bouleversée. Alors, je n'étais pas célèbre comme Janis Joplin ou comme Jimi Hendrix, mais c'était une toute petite célébrité, une petite chose littéraire de rien du tout. Mais quand même, cette petite chose de rien du tout, en raison de la nature de l'ouvrage quand même, m'a amené à un statut, même pas provisoire, un véritable statut de vedette. C'était le vedettariat. Je me sentais mis à nu. C'est-à-dire que ceci était lié à la façon dont le livre avait été reçu et puis traduit en culture populaire, en folklore populaire. Je suis devenu un personnage folklorique, en quelque sorte, et ce personnage n'avait rien à voir avec moi. Ce qui fait que j'étais l'auteur de Portnoy et son complexe, mais je suis devenu Portnoy moi-même.
Voilà, Philippe Roth, donc, dans cette archive de 1999 avec Alain Finkielkraut. Dans quelques instants, la parole à José Camoun, qui est professeur de littérature et qui a traduit une bonne partie de l'œuvre de Philippe Roth chez Gallimard. On est également, Léa, en ligne avec l'écrivain, journaliste, écrivain, Marc Weitzman, pardon à lui.
Marc Weitzman, bonjour. Vous connaissez bien Philippe Roth. Vous l'avez interviewé notamment pour Le Monde des Livres. Et si je me souviens bien, vous avez même assisté récemment, il y a quelques années, à son anniversaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter les images que vous avez ce matin de Roth?
C'était il y a 5 ans, hein, l'anniversaire. Oui, c'était à la bibliothèque de Newark. Que vous dire? Ben, je sais pas. Les images que j'ai de lui, c'est moi des images qu'un sentiment d'ailleurs. C'est le sentiment d'une immense liberté. C'était quelqu'un de, ça se sent dans ses livres, mais c'était vrai aussi dans la vie. C'était quelqu'un de qui ne se laissait jamais aller à simplement être, qui jouait avec toutes les étiquettes et toutes les identités, et qui ne se laissait jamais enfermer dans une identité précise comme tout le monde s'efforce de le faire aujourd'hui. C'est en ce sens que pour moi il est vital et très important aujourd'hui. Il est un contre-poison à l'époque.
Et il ne se laissait pas enfermer, vous dites, dans une identité précise, et pourtant son identité juive était au cœur de son œuvre.
Mais c'est justement ce paradoxe-là qui est intéressant. C'est pas tellement l'identité, c'était l'histoire. C'est-à-dire que il se définissait comme historiquement juif et profondément américain, mais américain au sens où l'Amérique définissait ce que c'est qu'être américain de façon vers le milieu des années du 20e, c'est-à-dire la capacité à sortir du milieu dont on vient et à s'inventer une individualité inédite, à se réinventer complètement. Et c'est dans cette tension entre ce dont on vient et ce qu'on crée, ce qu'on fait de soi, qu'il trouvait son espace créateur. S'il y a une chose à dire, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je pense que c'est ça, pour moi c'est surtout ça aujourd'hui, c'est ce contrepoison, cette espèce de pulsion de liberté qu'il y a dans chacun de ses livres, certainement dans les meilleurs.
Lesquels? Si vous devez en citer un ou deux ce matin.
Difficile de n'en citer qu'un, on l'a vu depuis 7 heures. Hein. Quand on demande un livre, tout le monde en cite 5.
Moi, je dirais certainement La Contre-Vie et Le Théâtre de Saba, si je devais en citer que deux, et Pastorale américaine en troisième.
Ben voilà, vous en avez cité trois, Marc Weitzman. Merci beaucoup d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Je voudrais saluer José Camoun. Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous êtes traductrice d'une grande partie de l'œuvre de Philippe Roth. Quelles étaient les relations de travail entre vous et lui, entre la traductrice et l'écrivain?
C'était des relations extraordinairement privilégiées dans la mesure où la maison Gallimard m'a envoyé année après année passer une semaine à New York, non loin de chez Philippe Roth, pour pouvoir consacrer tout le temps nécessaire à l'élucidation de ces textes et à la façon dont il souhaitait qu'ils soient rendus. Et Roth était, dans la première approche qu'on pouvait avoir de lui en tant que traducteur, un très grand professionnel. C'est-à-dire que sa patience était infinie. On parle souvent de son caractère difficile. Ben, c'est pas du tout ce que le traducteur pouvait constater, puisque la première fois que je suis allée chez lui, assez intimidée comme vous pouvez l'imaginer, malgré tout, quoi qu'il ait ménagé un dîner la veille pour me mettre à l'aise, j'ai posé deux ou trois questions et je me suis excusée en disant « je devrais peut-être savoir ceci, vous pensez peut-être que je sais cela ». Et là, il m'a regardé avec un sourire en coin et il m'a dit « écoutez, j'ai tout le temps qu'il faut à consacrer à ces questions, donc cessez de vous excuser, c'est du temps perdu ». Voilà, ça a commencé comme ça.
Quelques mots, José Camoun, et ce sera malheureusement en cours après le temps, ma dernière question. Comment décririez-vous la langue de Philip Roth ?
Oh, c'est une langue assez journalistique. C'est une langue qui a des tempos extrêmement variables. Ça va du staccato à la langueur parfois. Donc elle est d'une fluidité, d'une souplesse et d'une nervosité extrême. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas toujours facile à traduire. Et aussi parce que, comme Saul Bellow d'ailleurs, je dirais que la phrase, il met dans la phrase le maximum d'informations possibles. Et le français ne se prête pas toujours au développement. Il y a quand même une citation très courte que je voudrais faire en ce jour. C'est une citation de Lattache. À l'issue d'un long passage où il évoque les protagonistes qui viennent de mourir tragiquement, il dit qu'ils sont des détails dans ce réel qui en fourmille, ce réel qui en est la rhapsodie. Et il conclut par ces deux phrases. Rien ne dure, et pourtant rien ne passe. Et rien ne passe, justement, parce que rien ne dure.
Merci José Camoun, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez traduit une grande partie de l'œuvre de Philip Roth et que vous serez vendredi l'invité d'Augustin Trapenard. Très en retard donc, 8h59. Et on va passer à Augustin Trapenard. Bonjour Augustin.
Salut Nicolas. Mais c'est intéressant parce que je reçois en direct dans le studio d'à côté un autre géant des lettres américaines, Armistead Maupin, l'auteur culte des chroniques de San Francisco. On va évidemment parler de Philip Roth. On va aussi parler d'identité, d'Amérique et de culpabilité. Armistead Maupin est dans Boomerang, évidemment.
Merci Augustin et à tout à l'heure.